c'est de voir combien les enfants aiment ce cantique que nous venons de chanter, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dieu notre Père, nous voulons nous recueillir devant toi ce soir et prendre conscience que ton regard nous enveloppe tous et sonde aussi tous nos cœurs. Et nous savons que quand tu vois une repentance dans le cœur d'un enfant ou d'un adulte, il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu, plus que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oh, nous voulons te demander que dans ce temps, il y a eu de la joie dans le ciel parce que l'un ou l'autre a compris qu'il avait à se repentir et à te confesser ses péchés que tu as portés sur la croix. Et nous voulons maintenant te demander au terme de ces rencontres, tu puisses être satisfait du travail de Jésus dans les cœurs. Tu ne voudrais pas que ton fils, ton bien-aimé, que tu nous as donné et qui nous a aimés jusqu'à la mort, soit mort en vain. Tu voudrais qu'il y ait une riche moisson d'âme et que personne qui se trouve ici soit perdu. Alors nous voulons te faire confiance en te demandant que ton esprit opère parmi nous dans ces derniers moments pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, nous arrivons à la fin de ce thème. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous avons cru devoir prendre le livre de Ruth pour illustrer ce thème, car c'est de la foi qu'il est vraiment question dans ce livre. Et je résumerai chaque chapitre par un titre. Le chapitre premier, je l'appellerai « Le choix de la foi ». Et qui a fait ce choix? Alors qu'elle était païenne et dans le pays de Moab, c'est Ruth. Elle a su choisir. Elle n'a pas voulu rester dans le milieu qu'il avait dû naître. Alors que tant de personnes ont tant de peine à se séparer de ce milieu peut-être familial ou ecclésial, pour entrer dans le chemin de la foi. Parce que le choix de la foi est suivi par un chemin, comme nous l'avons vu, Ruth a marché avec Naomi vers Bethléem, la ville où devait naître le Sauveur. Le chapitre 2, nous pourrions l'intituler « La persévérance ou l'œuvre de la foi ». Si il est question de la vraie foi, une foi vivante, c'est une foi qui produit des œuvres. Et dans le chapitre 2, nous avons vu Ruth qui avait choisi d'aller dans ce pays qu'elle ne connaissait pas. Une fois qu'elle s'y est trouvée, elle a immédiatement travaillé pour subvenir aux besoins de sa belle-mère. Elle a persévéré dans cette foi. Dans le chapitre 3, nous voyons Naomi qui désire que sa belle-fille entre dans le repos. Alors nous l'appellerons le repos de la foi. C'est le moment où Ruth ne travaille pas, mais se repose en suivant simplement les ordres, les conseils de sa belle-mère qui a de l'expérience et qui maintenant est en revenu à la source qu'elle n'aurait jamais dû quitter, est elle-même transformée et peut conseiller sa belle-fille et voir en se confiant entièrement au Seigneur, se réaliser ce qu'elle avait cru impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et Ruth ne va pas être laissée seule. Elle va pouvoir fonder un foyer, être à l'abri de tout besoin. Alors le chapitre 4, on l'appellerait la récompense de la foi. Simplement pour souligner que notre titre convient quand même, ce thème du camp sans la foi. Il est impossible de lui plaire, mais il y a foi et foi, et la foi n'est pas une simple croyance en l'existence de Dieu, c'est cette attitude qui prend Dieu au mot, qui croit que ce que Dieu dit est vrai, c'est ça la foi, et qui s'empare des promesses de Dieu et qui les voit se réaliser. J'ai bien conscience que nous n'avons fait qu'effleurer les vérités qui sont contenues dans ce merveilleux petit livre de 85 versets où se succèdent une suite de tableaux merveilleux. Alors, nous allons lire le dernier chapitre qui nous a déjà occupé quelque peu ce matin. Boaz a dit à Ruth, qu'il rachèterait les champs vendus, puisqu'il avait droit de rachat. Mais en même temps, il lui montre qu'il y a encore une difficulté à vaincre, c'est que quelqu'un d'autre a le droit de rachat. Mais il s'arrangera à parler à ce parent proche qui aurait droit de rachat, et il se soumet. S'il veut racheter, bien, c'est bien. Mais s'il ne rachète pas, il assure Ruth que lui interviendra. Et maintenant, il sait que Ruth l'a aussi accepté dans son cœur pour époux. Et je voudrais tout de suite vous dire que l'on aurait pu étudier ce livre d'une autre manière, et en particulier insister sur ce que Boaz représente. Il est une figure du Seigneur Jésus, le grand libérateur, le seul qui pouvait nous racheter de tout péché et de toute iniquité. Personne ne peut racheter son frère de son péché. Alors, Dieu a envoyé son Fils unique, et c'est lui qui est le Rédempteur et qui nous rachète. Et quand on applique justement ces vérités concernant le Seigneur à Boaz, eh bien on voit que dans le détail, tout correspond. Et tout à l'heure, avant le souper, je crois, nous parlions avec notre chère cuisinière, et elle me disait qu'elle avait pensé aussi que si on suit ainsi Boaz, on voit que Jésus, dans la nuit de Gethsémané, je l'ai rappelé aux enfants, a eu une frayeur. C'est vrai. C'est toutes des choses que nous pouvons souligner. On l'a-t-il eu, cette frayeur? C'est en Gethsémané. Alors que jusque-là, on voyait Jésus allant de lieu en lieu, faisant du bien, apportant justement la paix, la délivrance de toute crainte, de toute frayeur. Il disait, ne crains pas, actez l'âme. Il disait, tes péchés sont pardonnés à quelqu'un d'autre. C'était toujours des paroles de délivrance. Quand quelqu'un lui disait, si tu veux, tu peux me rendre net, qu'est-ce qu'il répondait? Je le veux, sois net. Et puis, dans les derniers jours de son ministère, on rencontre un Jésus troublé qui ouvre son cœur à ses disciples et qui leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il était angoissé. Et pour quelle raison, justement? Eh bien, je n'ai pas peur de me répéter, mais il l'avait dit, vous me laisserez seul. Toutefois, je ne suis pas seul, parce que le Père qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. C'est lui qui est l'exemple parfait de la foi. Il faisait toujours les choses qui plaisaient à son Père. Alors il n'était jamais seul. Eh bien, nous aussi, si nous ne voulons pas connaître la solitude, nous devons rechercher les choses qui plaisent à son Père. Et ce qui plaisait à son Père, c'est qu'il voyait dans son Fils ce seul désir de faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Il disait, c'est ça ma nourriture, ma viande, c'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, on se porte bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être malade, avoir des épreuves, mais je sens spirituellement, même dans l'épreuve, tout va bien. Et c'est cela qui est un témoignage. Que de fois, sur un lit de souffrance, on a pu voir un témoignage de puissance et de force, alors que l'homme extérieur dépérissait. L'homme intérieur se trouvait renouvelé de jour en jour. Et on était ému et béni. Il y avait là un vrai témoignage. Eh bien, Jésus, arrivé au soir de ce jeudi saint, envisage tout ce qui va lui arriver. Et ce qui l'afflige, c'est de penser que pour sauver vraiment les âmes, il doit être identifié à tout ce qu'il a toujours haï. Qu'est-ce qu'il a haï ? Le péché. Sous toutes ses formes. L'hypocrisie. Le mensonge. L'injustice, l'impureté, la débauche, et pour que les péchés soient vraiment expiés, et pas, il devait les prendre à son compte. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé un peu qu'il a été fait péché pour nous, péché pour nous. Et Dieu ne peut pas passer sur le péché. Même quand il a vu le péché de l'humanité et de chaque individu, péché en pensée, péché en parole, péché en acte, et je dirais aussi ce péché dont j'ai été convaincu quand j'étais très jeune, péché par omission. Quand j'ai compris cela, je croyais que j'allais partir auprès du Seigneur. J'avais 18 ans, mais j'ai été saisi, j'ai dit, mais tout le bien que je n'ai pas fait, toutes les occasions que j'ai manquées, les occasions m'avaient été données puisque j'étais converti depuis 13 ans et demi, mais il y avait quelques années qui avaient passé et tout ce que j'avais manqué, ce n'était pas simplement des péchés en parole, en pensée et en acte qui me reviennent dans ces moments-là, mais c'était, tu ne peux plus rien faire pour le Seigneur. Tu vas être devant lui, puis il va aussi te montrer ce qu'il attendait de toi, tu ne l'as pas fait. Ah, cette conviction de péché, quand vous sentez qu'on est en train de vous attacher sur la table et puis que c'est peut-être fini. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu les paroles de ce cantique qui restaient dans mon cœur. Lieu de repos, sainte patrie, séjour heureux des rachetés. Puis j'abrège. Là j'entrerai sauvé par grâce. Ah, savoir qu'on est sauvé par grâce. Pas par nos mérites, pas parce qu'on a fait ou parce qu'on n'a pas fait. Là, je serai sauvé par grâce. Là, tu m'attends au Saint-Arbis. Là, me dis-tu, là, tu as la place avec moi dans le paradis. Et puis alors, on se rend compte, il a payé pour tous mes péchés, par omission, en pensée, en parole et en acte. Puis depuis, j'ai aussi compris qu'il y avait un. Encore un cinquième péché,
Lequel? Tout ce qu'on ne fait pas par conviction, c'est un péché. Vous savez, ça va loin. Hein? C'est dans l'Écriture qu'il a dit cela. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. On n'essaye pas ceci ou cela pour voir si ça réussit. On obéit à quelque chose dont on est convaincu. Et on va. Et vous voyez, vous avez ça chez Ruth. Elle est convaincue. Et sa belle-mère a beau lui dire « Retourne vers ton peuple et vers tes dieux », elle est convaincue et elle s'en va prête à payer le prix. Peu importe. Elle ne sait pas ce qu'il attend, mais elle a la foi, et c'est ça la foi. Alors Jésus, à Gethsémané, est seul. Il aurait besoin, comme homme, d'avoir un peu d'aide. Il demande la prière de ses trois disciples. Puis il s'en va à environ un jet de pierre. Vous savez, quand on est à Gethsémané, puis qu'on revit cela, qu'on est dans ces lieux-là, dans ce jardin de Gethsémané, c'est absolument bouleversant. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais avec un groupe entièrement catholique, et puis on m'avait demandé de prêcher justement dans cette église de Gethsémané, et puis ils étaient tous là, il y avait beaucoup de prêtres. Puis, c'est il y a 3 ans, je pense, c'était à Québec, puis un prêtre s'est levé, puis il a dit ce qu'il avait réalisé. Il était là, un auditeur à Gethsémané, quand j'avais prêché au pied du rocher de l'agonie, puis il pleurait. Ça l'avait complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que j'avais été saisi par l'Esprit, et puis j'avais présenté justement Jésus à Gethsémané. Pourquoi ce trouble dans son âme? Pourquoi cette angoisse jusqu'à la mort? Il allait être fait pécher pour nous, comme si c'était lui qui avait fait cela. L'homosexualité, l'adultère, et puis toutes ces mauvaises pensées qu'on peut avoir. Il avait pris cela pour que je sache que même quand j'ai eu ces mauvaises pensées, bien, tout cela s'est nettoyé. Nous sommes purifiés parce qu'il a expié cela. Comprenez-vous? Dieu serait injuste de nous reprocher quelque chose. Ça a été payé. Mais combien peu nous entrons dans la communion du Seigneur? Nous dormons. Et alors, la grande leçon de Gethsémané, comment est-ce que Jésus a été délivré? À quel moment est-ce qu'il a pu se relever et envisager la croix avec toutes ses humiliations, ce dévêtement, ces coups, cette flagellation, cette couronne d'épines, ces clous qui perçaient ses mains qui bénissaient, ses pieds qui allaient apporter la délivrance partout? Est-ce qu'il a pu se relever et dominer la situation? C'est quand, pour la troisième fois, il a dit « S'il était possible que cette coupe passe loin de moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Et ça, mes amis, c'est le secret. Nous avons la victoire quand nous acceptons la volonté de Dieu. C'est absolument clair. Et Jésus nous a donné justement cet exemple, quand il a pu dire, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors il se lève, levez-vous, celui qui me livre s'est approché, et il s'en va au devant de cette troupe, Et ils demandent, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchiez, laissez aller ceci. Il couvre tous ses disciples. Il domine toute la situation. Il a accepté. Et il se laisse lier et conduire comme on conduit un agneau à la boucherie. Il a réalisé toutes les prophéties. Mes amis. Oui. Le Seigneur, comme Boaz, ou Boaz, nous montre qu'il y aurait un moment dans la vie du Seigneur où il y aurait une frayeur. Et c'était cette frayeur du péché. Et nous, nous courons vers le péché. Donc, chers amis, si nous disons que Jésus est notre Sauveur, il y a une rupture. Mais pour qu'il y ait rupture avec le péché, il faut qu'il y ait rupture avec ce qui est du monde. Et si vous aimez le monde, qu'est-ce que je dois vous dire au nom du Seigneur? Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et qu'est-ce que c'est l'amour du Père? C'est pas un sentiment, c'est quelqu'un, c'est Jésus. L'amour du Père, c'est Jésus. Eh bien, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans le monde. Oui, mais alors, est-ce que vraiment Jésus peut nous satisfaire? Bien, demandez-lui, Seigneur, est-ce que vraiment tu peux me satisfaire? Fais cette prière. Est-ce que tu peux me donner plus que le monde mort? Le monde a l'air de vous donner quelque chose, mais il ne vous donne rien. Tout se paye dans le monde. Ce qu'il a l'air de vous donner, c'est pour vous posséder. Alors, croyez le Seigneur qui vous dit, moi je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Et vous pouvez compter sur les paroles du Seigneur. Et vous pouvez savoir que c'est aujourd'hui que le Seigneur veut s'occuper de vous. Voulez-vous être sauvé? C'était le accomplir ce salut pour vous aujourd'hui. Parce que c'est ce que Naomi a dit à Ruth, reste dans le repos. Jésus, c'est vrai pour Boaz, mais c'était vrai pour Jésus. Nous donne le salut. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Je me souviens de ce jour où j'ai pu dire, bien maintenant, Seigneur, je ne peux plus continuer comme cela. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta, chapitre 4. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici. Et il s'approcha et s'arrêta. Et Boaz prit alors des hommes parmi les anciens de la ville, 10 hommes, et il dit, asseyez-vous. Et ils s'assirent. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai.
Bon, on dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, qui était donc Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas le racheter pour mon propre compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Et ce matin, nous avons vu que ce droit de rachat nous parle de la loi qui avait été donnée par Moïse au peuple qui avait dit que Dieu nous donne une loi qui nous fasse comprendre ce qu'il veut et nous lui obéirons, nous l'accomplirons. Et alors, Dieu avait dit, eh bien, faites ces choses et vous allez être rachetés. La loi aurait cette prétention. Si vous faites ces choses, vous vivrez. Mais est-ce qu'on arrive à les faire? Non. Et alors, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Donc, ce qui est très proche de nous, soi-disant pour nous racheter, c'était la loi. Puis on est toujours prêt à vouloir faire la loi. C'est très proche de nous. C'est plus proche que la grâce. Ça vient en premier, la loi. Mais quand on va au fond des choses, on comprend que tant qu'on est sous le joug de la loi, on est sous la malédiction et on n'est pas heureux. Et il y a une foule de chrétiens qui sont encore sous la loi. Et ils ne sont pas heureux. Vous ne pouvez pas être heureux sous la loi. Alors, comment être délivré? Par la mort. Je suis mort à la loi. Pas seulement mort au péché, mais mort à la loi. Et alors, étant mort à la loi, je peux appartenir à un autre. Et qui est cet autre? C'est Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, c'est celle qui est venue en premier, mais ensuite, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et ce n'est que la grâce qui peut nous sauver. Nous sommes rachetés par grâce. Là, j'entrerai sauvé par grâce, dit ce beau cantique dont je vous ai parlé. Alors, il est maintenant un fait certain, le proche parent ne rachètera pas. De sorte que Boaz rachètera, accomplira sa promesse, mais il aura en même temps une épouse. Et si Boaz représente Jésus, Jésus est mort pour sauver les pécheurs, mais en même temps pour avoir une épouse. Et Ruth devient ici l'image de l'Église, comme aussi on peut voir l'image d'Israël. Et puis appliquer tout cela à Israël, mais il faudrait du temps, et puis envisager ces chapitres sous la voie prophétique. De sorte qu'on n'a fait qu'effleurer ces vérités. Mais c'est très clair. Verset 7. Quand il a dit qu'il ne pouvait pas racheter, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. C'était une coutume, parce que comme on le disait ce matin, quand on met le pied sur quelque chose, on le possède. Alors si on enlève son soulier, on montre qu'on y a renoncé. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Bose, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Verset 9. Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Maclon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre vos frères et de la porte de son lieu. Vous êtes témoins aujourd'hui, et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, et nous disions ce matin, c'était merveilleux de voir que la Moabite, l'étrangère, est considérée comme Rachel et Léa qui ont fondé Israël, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, Ephrata c'est la région qui entoure Bethléem, et fais-toi un nom dans Bethléem. Il avait déjà un nom dans Bethléem, mais on lui dit de se faire encore un nom dans Bethléem. Donc ça va plus loin que Bose, ça va jusqu'à Jésus. Le nom au-dessus de tout nom qui se fera à Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, donc vous voyez que je ne vous ai pas dit des mensonges quand je vous disais qu'elle était jeune, rend ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Juda par Tamar. C'était la grande famille de Juda, d'où est né le Seigneur. Bose prit Ruth qui devint sa femme. N'est-ce pas merveilleux? Elle qui avait quitté Moab en pensant qu'il y aurait tellement de difficultés qu'elle ne trouverait pas de mari. C'était ce qu'avait pensé sa belle-mère. Et pourtant, elle trouve un prince d'Israël. Et puis, qu'est-ce que vous lisez ensuite? Il alla vers elle. Donc, il y a eu l'amour complet. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et enfanter un fils. Pendant 10 ans qu'elle a pu avoir des relations sexuelles avec son mari, le Seigneur n'a pas permis qu'elle conçoive, qu'elle enfante. Mais maintenant qu'elle est avec Bose, qui est pourtant déjà âgée, elle conçoit et elle enfante un fils. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Aussi nous retrouvions cette fois toute cette question des naissances aurait sa solution. Mais si nous n'avons pas cette foi, alors on prend toute espèce de moyens. Mais s'il y a foi, eh bien, on a des délivrances merveilleuses. Et peut-être qu'on évite aussi certains troubles à un certain âge. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté. L'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. Est-ce que vous avez un autre verset qui vous fait penser à quelque chose d'un peu semblable? Oui. C'était Elkana qui disait à sa femme, qui n'avait pas d'enfant, est-ce que je te vaux pas, moi,
Ça, c'est toujours les hommes. Des fils. C'est toujours bien des fils. Puis elle ne trouvait pas. Non. Elle n'était pas d'accord qu'il valait des fils. Elle allait pleurer à Silo parce qu'elle aurait voulu un enfant. Elle était exaucée. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Samuel. Hein? C'est beau. Mais là, les femmes lui disent, tu vaux bien des fils. Tu vaux bien... Êtes-vous bien sept fils, la perfection. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et il fut sous sa garde. C'était vraiment comme si c'était le sien. Ce fils qu'elle n'aurait pas pu donner, bien elle l'avait par Ruth. Et alors la fin, versets 17 à 22, nous montre pourquoi nous avons ce récit. Le fils de Ruth sera le grand-père de quel roi? De David. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed, qui veut dire servir. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachlon, Nachlon engendra Salmon, Salmon engendra Boz, Boz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Et pour un dernier mot, qui nous montre bien que tout cela est dans la lignée du Seigneur Jésus, chapitre 1er de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, hein, la femme à laquelle on n'avait pas donné le troisième fils. De Judas, Shéla. Judas engendra de Tamar Pérez, ce Pérez que vous trouvez là dans Ruth, et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon. Et qui est Salmon? Le père de Boaz. Salmon engendra Boz, et il est dit de qui? De Rab. Alors, vous êtes sûr que c'est Rab, hein? Et Rab était une prostituée avant. Boz engendra Obed de Ruth. Donc, vous voyez, les noms de ces femmes se trouvent là. Tamar, Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de qui? De la femme du riz. La femme avec laquelle il avait péché. Vous voyez la grâce de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il lui a pardonné? Parce qu'il s'était humilié et qu'il avait confessé sa faute. Psaume 51 et psaume 32. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ, c'est-à-dire loin.
Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Et puis après, vous avez le récit de la naissance du Seigneur. Eh bien, nous arrêtons là et nous demandons à Dieu que vous ayez pu au moins saisir l'unité de l'Écriture sainte. Père d'amour, Père de grâce, merci de nous avoir donné ta parole. Cette parole qui est vivante. Et nous te remercions de nous avoir permis de contempler la personne de ton Fils dans l'Ancien Testament. Lui-même nous l'a dit que toutes les Écritures nous parlaient de lui. Et nous voulons te demander que nous puissions relire ces choses, les méditer, les repasser dans nos cœurs, et qu'elles nous apportent encore d'autres merveilles, et surtout l'assurance que lorsque nous avons Jésus et que nous voulons le suivre, nous avons la vie éternelle, et des possibilités merveilleuses, car tu nous as donné un héritage et tu as tout fait pour que nous le possédions, que notre héritage soit racheté. Et ta mort, ô Jésus, a racheté l'héritage. Et nous voulons te demander que nous puissions déjà vivre de cet héritage, dans cet héritage. Nous en avons reçu les arts par ton esprit. Donne-nous de vivre avec des possibilités divines et de ne plus rechercher les possibilités humaines et charnelles. Quand nous avons des possibilités divines, or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.